vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La Lumière, l'intégrale. Mise en scène, production, Julien Jean-Pierre. Attention, L'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Le soir, lorsque M. Perrier le voit, il lui demande « Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez l'air triste. » Vincent lui dit « Je suis un idiot. Je viens de rencontrer une jeune fille charmante et je l'ai laissée tomber. Je ne la reverrai plus. Oui, je ne la reverrai plus. » Le vieux lui dit « C'est peut-être mieux ainsi. Il faut se méfier. » Des femmes, surtout des jeunes filles charmantes. Ma femme, Et comme ça,
Vincent lui dit. Elle semblait bien, le vieux lui dit.
Si vous l'aviez vue, elle aussi, elle était bien. Et qui sait, vous la reverrez. Mais cette fois, faites en sorte à ne pas la perdre.
Vincent lui dit. Mais vous venez de me dire de me méfier des femmes comme elle, Guillaume lui dit.
Lorsqu'un jeune homme est mordu, on ne peut rien lui dire. C'est lui qui doit se rendre compte s'il a fait une bêtise.
Le matin, il fut surpris de revoir la jeune fille à l'arrêt du car. Elle lui dit, vous n'attendiez plus à me revoir? Il sourit et elle lui dit, j'ai une dette envers vous. Tenez, qu'est-ce que c'est? Ben, le prix du billet? Pas la peine? Vous pouvez le garder. Mais je tiens, il lui dit, bien, mais à Lyon, je vous paye un café. Elle lui fait d'accord, et tout surpris que ça se passe si facilement. Durant le trajet, elle parle de choses et d'autres, et dit qu'elle va tous les jours à Lyon pour aider une amie qui a un magasin d'antiquités. Il n'y vient jamais personne, mais ça me permet de m'occuper un peu et puis de parler avec mon ami. Ils arrivent à Lyon. Ils cherchent un café, en trouvant vers la place Carnot. Le café est assez grand. Le café est assez grand, moderne, il y a du monde. Surtout des étudiants de l'université catholique qui est à côté. S'assoit à une table, l'un en face de l'autre. Un serveur dans les 18 ans, blond, habillé en pantalon noir et chemise blanche, va à eux. Vincent dit, deux cafés et des croissants. Il demande à la jeune fille, vous désirez autre chose? Elle lui dit, non, merci. Le serveur se retire, il dit à la jeune fille, je m'appelle Vincent Leroy. Moi, Delphine. Il fait joli nom, elle sourit. Le serveur leur apporte leur café et se retire. Ils boivent une gorgée. Lui demande, vous vivez seul? Elle lui dit, oui, plus de famille. Et vous? Je n'ai qu'un vieil oncle. qui perd un peu la tête et lui dit « D'habitude, je ne parle pas à un garçon, mais avec vous, je suis en confiance. Je sais pas, je me sens en confiance. » Il lui dit « Moi aussi, je suis assez timide et si vous ne m'aviez pas parlé la première, je ne vous l'aurais pas abordé. Mais ça aurait été dommage. » Elle lui demande « Dommage pourquoi ? Parce que je vous trouve charmante. Merci. Je suis charmante peut-être, mais souvent étourdie. Je perds tout. » Il lui dit « Sous votre charme. Merci. Vous aussi, vous êtes gentil. Merci. » Elle regarde sa montre et lui dit « Je dois vous quitter. On m'attend. » Ils arrivent à la sortie du café. Ils paient la consommation en passant devant le comptoir. Une fois dehors, il lui demande « Nous nous reverrons ?» Il lui dit « Sûrement, je prends le même car que vous. » Elle l'embrasse sur la joue et se sauve en courant. Vincent se trouve tout drôle. Une jeune fille qui semble attirée par lui. C'est pas possible. Décidément, c'est sa chance. Un travail et une fille. Oui, un travail et une fille. Il est dans un nuage et a hâte de la revoir. Lorsqu'il entre dans son allée et qu'il retrouve Madame Roland sur le palier comme d'habitude. Elle lui demande « Qu'est-ce que vous avez ? Vous semblez tout bizarre. » Il dit « Rien. J'ai rencontré une jeune fille. »« Oh, l'amour, l'amour. Elle est jolie. » »« Oui. Alors, je ne peux pas rivaliser avec elle. » Vincent lui dit. « Aucune de filles ne vous vaut. » Elle lui dit « C'est ça. Et c'est pour ça que vous la préférez à moi. » Ils rient tous deux. Vous êtes une vraie amie, Madame Roland. Vincent est heureux. Il n'a jamais été aussi heureux. Il a rencontré une jeune fille qui semble le trouver bien et veut bien sa compagnie. Il n'a jamais été aussi heureux. Une jeune fille et un travail, peut-être un peu pénible, mais qui paye bien. Le bonheur fait oublier la religion. Lorsqu'on est heureux, on n'a plus besoin d'aide et l'on oublie ceux qui pourraient vous aider. Lorsque vous êtes en peine, pour Dieu, c'est la même chose. On se croit invulnérable et l'on oublie tout. Pour Vincent, c'est la même chose. Oui, lorsque vous êtes en peine, vous pensez à Dieu. Et lorsque vous êtes heureux, vous ne pensez plus à lui. Tous les matins, ils revoient la jeune fille. Et ils prennent le car ensemble et vont boire un café à Lyon. En buvant son café un matin, elle lui dit « Vous, vous n'êtes pas comme les autres. Vous semblez plus sérieux. Bon, je sais que si j'avais besoin de quelque chose, un problème, vous m'aiderez. » Il lui dit « Tout heureux. Je serai très heureux. Demandez-moi ce que vous voulez. » Elle lui dit, c'est vrai, merci. Il est tout fier. Le vieux monsieur lui demande souvent des nouvelles de ses amours. Il lui dit,
elle est le même âge que vous, c'est bien. Méfiez-vous, elle peut être coquette.
Non, pas elle. Elle est très sérieuse.
Si vous l'aimez, alors mariez-vous. Mais... mariez-vous. Parce que vous semblez tellement heureux. Mais il faut qu'elle le sache.
Vincent n'en est pas encore là. Il n'ose pas lui dire son amour. Et lui dire comment. Les mots lui semblent ridicules et vieux jeux. Et les gestes encore plus difficiles. Elle a l'air si pure. Il croit que son comportement parle pour lui. Les jours passent.
Le vieux lui dit,
« Va parler de vos sentiments. »«
Non, je ne peux pas. »
Le vieux lui dit, « Attention, elle peut prendre ce que vous ressentez pour elle pour de l'amitié, rien de plus. »
Il a peur qu'elle le prenne simplement pour un ami.
Lorsqu'ils sont au café, ils demandent, vous n'avez pas envie de vous marier plus tard?
Elle dit,
vous pensez au mariage? Vous aimeriez vous marier? Sans doute pour fonder une famille?
Il est tout rouge.
Oui, et pour vivre avec la personne que j'aime?
Elle dit,
comme vous êtes romantique. Je vous en aime encore plus.
Il est tout rouge et humain.
Ça vous dit rien le mariage?
Et lui,
avant de se marier, il y a des tas de choses à faire et surtout trouver la personne à aimer. Vous n'avez pas encore trouvé?
Je ne dis pas ça.
Et vous?
Il baisse la tête et dit,
moi? Oui, vous en avez de la chance. Et comment est-elle?
C'est
vous.
Elle arrête de sourire et lui dit,
je suis très touchée. Merci.
Il demande,
vous ne m'aimez pas?
Et il dit, je ne dis pas ça, mais nous connaissons si peu.
Mais moi, ça me suffit pour vous aimer.
Il lui donne un baiser sur la joue et lui dit,
soyez pas triste, j'ai pas dit que je vous aimais pas.
Elle regarde sa montre et lui dit, je dois m'en aller.
Et il quitte le café.
Et elle le quitte comme d'habitude.
Lui, il est inquiet, très inquiet.
Il est très inquiet parce qu'il vient de lui dire et a peur que leur relation soit moins bonne et qu'elle ne veuille plus de lui. Oui, qu'elle ne veuille plus de lui.
Il passe une journée terrible en se disant qu'elle ne voudra plus de lui.
Hâte d'être au lendemain matin.
Le soir, il dit tout au vieux monsieur. Le vieux monsieur lui dit,
« Au moins, vous allez savoir si vous attendez pour rien. Et c'est ce que vous ressentez pour elle. C'est bien. Maintenant, c'est à elle. À vous dire si elle ressent la même chose pour vous. Mais ayez confiance. Il faut être patient avec les filles. Elles sont moins rapides que nous. C'est peut-être pour ça qu'elles sont plus calculatrices. Sans le passion. Il faut qu'elles réfléchissent et interrogent son corps. Vous êtes un garçon sérieux. Elle l'a vu. Et c'est des futés, les femmes. Si elle dit oui, elle voudra que les choses aillent plus très vite. Je souhaite pour vous que ce soit bien pour vous. Pas comme pour moi. Je suis tombé sur une garce qui ne pensait qu'à mon argent.
Vincent se sent mieux à cause de ce que lui a dit le vieil homme. Le vieil homme s'affaiblit. Il a souvent besoin de dormir, a des difficultés à digérer. Le matin, Vincent retrouve Delphine. Elle se comporte normalement. Lui est tout excité, mais elle parle de tout et de rien. Les autres fois, c'est pareil. Lui, ça l'excite. Il ne sait quoi y penser. Des fois, elle se dit qu'elle ne veut pas de son amour. Où qu'elle a été. Vexée qu'il lui parle de ça. Le vieux monsieur lui dit de patienter, que c'est bon signe qu'elle ne lui parle pas. C'est qu'elle étudie la situation avec sérieux. Ça donne plus de courage à Vincent. Le vieux lui dit,
au lieu de vous tracasser, pensez donc à l'avenir, au logement, les choses à acheter, etc.
Alors Vincent se met à rêver. Il va regarder les vitrines, les locations, va voir les magasins de meubles, etc. Ça le grise tellement qu'il croit que la chose est prête à se faire. Ça le rend heureux, tellement heureux qu'il croit que c'est vrai. Qu'il a oublié le principal, qu'elle ne lui a pas dit son amour et qu'elle veut vivre avec lui. Pendant ce temps, le vieux monsieur s'affaiblit. Vincent lui dit ses projets et lui dit que c'est bien, très bien. Un matin, en prenant son café, elle lui dit,
je n'ai pas été bien avec vous. Je sais que vous m'aimez et je ne vous dis rien. Je voulais vous parler sérieusement. J'ai quelque chose à vous dire. C'est pas facile à dire. J'ai peur que vous ne compreniez pas. Elle lui dit, je peux tout comprendre de vous. Elle lui dit, je le sais. Mais c'est pour ça que je veux vous dire des choses. Mais attendez, c'est quelque chose de pas très agréable.
Il est inquiet, malgré tout.
Parlez, non pas maintenant, ni ici. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas le temps de parler, et puis aussi, on peut nous entendre. Il dit, où vous voulez. Eh bien, ce soir à 21h, sur la berge de Saône, vers le quai Rimbaud. Je vous attendrai.
Vers l'arrêt du car, qui est juste avant le pont Fourvière.
Bien, j'y serai. Mais dites-moi de suite si vous m'aimez.
Et elle lui dit,
oui, bien sûr, autrement je n'aurais pas donné rendez-vous.
Elle regarde sa montre et lui dit,
je dois y aller. Ils payent et ils sortent.
Elle l'embrasse sous la joue et se sauve.
Il est inquiet. Que va-t-elle lui dire? Et pourquoi lui donner rendez-vous dans cet endroit si lugubre? Pas suggérer? Impossible. Terrible.
Le soir, il va à son travail, dit l'infirmière, avant qu'elle s'en aille, qui doit s'absenter dans la soirée. Elle lui dit,
c'est bien fâcheux, ça. Vous auriez dû me prévenir avant.
Et elle réfléchit, dit,
bien, pour cette fois, ce sera la bonne qu'il gardera. Vous n'avez pas à revenir. Vous partez à quelle heure?
20h.
Bien, mais ne faites pas ça souvent.
Il dit au monsieur qui va partir à 20h.
Madame, vous donnez rendez-vous ce soir.
Le monsieur lui dit,
j'en suis très heureux. Comment s'appelle-t-elle?
Delphine Gaumont.
Joli nom. Ma femme avait le même prénom.
Et Vincent, excité, inquiet, quitte le vieil homme qui dort. Il prend le car, le dernier car, il fait déjà nuit. S'arrête à Perrache. Et va vers les quais de Saône, lugubre et sombre. La nuit, le quai Rimbaud ressemble, avec ses crues, ses charpentes métalliques, à un port des années 30. Il s'est arrêté près du port, le quai. Elle est là, en gabardine beige. Il va à elle, elle accourt à lui. Elle lui dit,
bonjour,
bonjour. Elle lui donne un baiser sur la joue. Elle lui dit,
viens, allons en bas.
Il lui demande, pourquoi en bas?
Tu as peur?
Non. Mais je n'aime pas ce coin. Viens. Elle le prend par la main. Il la suit. Descend jusqu'en bas des berges. Là, c'est pavé, bruit d'eau et de ferraille, très mal éclairé. Le bruit de leurs pas résonne sur le pavé. Il y a des péniches amarrées, des ombres de grues, de passerelles, des hangars. Il lui demande,
Tu n'as pas peur? Non, je trouve ça romantique.
Il sourit. L'impression que la ville est plus loin.
Tout en marchant, il me demande.
Tu m'aimes?
Il lui dit.
Oui, je t'aime.
Moi aussi, je t'aime.
Tout en marchant, elle se plaque contre lui. Il est heureux. Elle lui dit.
Paraît que lorsque l'on aime, que l'on est prêt à tout pour l'être aimé.
Moi, je suis prêt à tout pour toi.
Et toi?
Moi aussi.
Ça me fait plaisir que tu me dises ça.
Ce sera plus simple pour moi.
Il se dit qu'elle va peut-être lui dire qu'elle a aimé une autre personne.
Mais il s'en moque.
Oui, il s'en moque.
Et lui dit, je me moque de toutes les choses qui s'est passées avant que nous connaissions.
Elle lui dit, il y a pourtant une chose très importante qu'il faut que je te dise.
Il a tout de même peur, je t'écoute.
Elle lui dit, voilà, j'aimerais c'est te dire, c'est qu'avant, je n'ai pas osé. Je suis marié.
Il s'arrête de marcher.
Il est tout blanc. Chancelant.
Regarde droit devant lui.
Il veut pas la regarder.
Elle lui dit.
Oui. J'aurais dû te le dire. Mais ça n'a pas d'importance que je sois mariée.
Il lui demande sans la regarder.
Tu veux que l'on vive comme ça?
Elle lui dit.
Non.
Tu veux divorcer?
Ce n'est pas si simple.
Si je divorce, je perds tout.
Tandis que s'il décède, j'hérite.
Il est plus vieux que moi.
C'est un vieux dégoûtant.
Il m'a toujours dégoûté.
Il lui demande, énervé.
Alors, pourquoi tu t'es marié avec lui, puisqu'il t'a toujours dégoûté?
Elle lui dit, la vie n'est pas si simple. Tu sais, j'étais dans la misère, seul, sans travail, rien. Je l'ai rencontré et je me suis laissé faire. Tu sais, ce que c'est que de traîner dans la rue, de manger ce que l'on trouve dans les poubelles, de dormir à terre tout le temps. Alors bien sûr, c'est facile de me payer. Mais et puis c'est facile de me juger. Mais lorsque l'on manque de faim et de froid, on fait tout pour arrêter cette vie.
Oui, pour arrêter cette vie.
Il était bien.
Il était ma chance.
Je l'ai prise. Je l'ai prise.
Il lui dit, et maintenant, tu ne veux le plus.
Elle lui dit, c'est ta faute. J'ai rencontré là et j'ai voulu vivre autrement.
Il lui dit,
le miracle de l'amour, c'est ça?
Oui, c'est exactement ça.
Et lui dit, oui, mais tu es mariée.
Elle lui dit,
ça peut s'arranger?
Comment?
Tu ne veux pas divorcer?
Elle hausse les épaules et lui dit,
bien sûr. Je serais bien bête.
Il lui dit,
mais moi je veux une femme pour me marier.
Il lui dit,
moi aussi je veux me marier avec toi.
Il se taise. Il se dit, adieu, beau rêve. Il a envie de la laisser tomber. Il fait un pas et dit « Rentrons ». Elle lui dit « Attends, écoute, j'ai une idée ». Il soupire. Il ne la croit plus. Elle lui dit « Le vieux, c'est celui. Excuse-moi, il fait froid ici. C'est celui que tu gardes. » Le soir, il la regarde surpris. « Comment ? » ?»« Tu le sais. »
Je l'ai su.
Il commence à comprendre. Elle continue.
Il est malade, impotent. Tu pourrais peut-être l'aider à mourir. J'ai des comprimés que tu lui mets dans son verre et voilà. Pas de traces et le vieux passe de l'autre côté.
Il lui fait face, lui furieux et dégoûté.
Je comprends. Tu savais que j'étais là. Ce que je faisais dès le début. Et tu m'as rencontré pour ça.
Elle lui dit, non, c'est faux. C'est par amour.
Je ne te crois plus. Tu n'es qu'une menteuse.
Tu vas me faire tuer ton mari. Peut-être que je me ferai prendre. Qui me dit que ton poison ne va pas laisser de traces? Tu n'es qu'une sacrée garce. Oui, une sacrée garce. Tu fais tomber ton mari pour hériter. Rien de plus.
Non, c'est faux.
Tu me dégoûtes. Tu tues l'homme que tu as séduite, qui t'aime parce qu'il me l'a dit et qui t'a sorti du ruisseau. Oui, du ruisseau. Non, ne compte pas sur moi pour faire ta besogne. Trouve-en un autre. Il s'éloigne, triste et furieux. Elle lui crie « Vincent !» Ne répond pas. Il entend qu'elle court derrière lui. Il ne se retourne pas. Elle le dépasse. Elle tient un revolver à la main. Il lui dit furieux.
Tu me dis que tu m'aimes et tu me menaces avec ton revolver?
Elle lui dit.
Je ne peux pas faire autrement. Tu risquerais de me dénoncer.
Il lui crie. Eh bien, tire! Elle s'avance vers elle.
Tire!
Elle met en joue et vise. S'arrête de marcher. Fait face à elle. Elle recule d'un pas. Une chaîne qui tient la péniche au quai la fait tomber à la renverse. Elle se cogne la tête à la coque de la péniche. Elle tombe. Elle est tombée à la renverse. Se cognait la tête à la coque de la péniche. Son corps remonte sans vie à la surface. Et la cour, elle voit et voit qu'elle est inanimée. Le coup sur la tête l'a tuée avant de tomber à l'eau. Il l'a aimée. Il a pitié d'elle et se dit que c'est la main de Dieu qui l'a tuée et qui la berge. ne l'aime plus. Non, il ne l'aime plus. Arrivé sur le quai, il se dépêche d'aller vers le centre-ville pour entrer chez lui. Au fur et à mesure qu'il avance, le décor devient moins lugubre. Il se sent vidé et se dit que l'amour d'une femme, c'est peu de choses. En rien peut la faire le faire oublier. C'est dangereux. Elle aurait pu me faire quelque chose de terrible. Arrivé chez lui, il se couche, la tête vide. Le lendemain, il retourne vers le vieil homme. L'infirmière l'attend et lui dit « Cette nuit, il a eu une attaque dans son sommeil. On l'a amené à l'hôpital et il est mort. » Vincent est attristé. Il se dit que si cette garce l'avait attendue, elle serait veuve sans avoir rien fait. Il se dit que Dieu m'a protégé, m'a montré qui elle était vraiment et de quoi elle était capable. Dieu n'a pas voulu que je me marie avec une garce et il l'a puni, elle. Oui, elle, juste où elle allait hériter. Elle mord, pas d'avoir fait son geste, mais d'en avoir eu l'idée. Le péché de l'esprit est tout aussi grave que l'acte. On doit être pur, même dans ses pensées. Tartuffe est coupable. Parce que ses pensées ne sont pas celles d'un homme pur. L'infirmière lui dit, « Malheureusement, nous ne pouvons plus vous garder. Nous pourrions porter votre dernière paye. Merci, madame. Et pour les funérailles, je vous préviendrai. » Et il la quitte. Il est triste. Il a tout perdu. Travail, amour. Deux jours plus tard, il reçoit une lettre pour lui annoncer les funérailles. Il décide d'y aller. Il y a du monde pour les funérailles. Cimetière, église, etc. Au cimetière, il se met près de l'infirmière. Après la cérémonie, en partant, elle lui dit « Sa femme est venue. » Il la regarde surpris. « Vous êtes sûr ?»« Oui, bien sûr. »« Où est-elle ?»« La voiture, là, qui s'en va. » Il court après la voiture, se penche pour voir. Il voit l'arrière. Il a tout juste le temps de voir une femme tout en noir avec un voile qui lui cache le visage. Il retourne vers l'infirmière et lui demande « Vous êtes sûr que c'est elle ?» Elle lui dit « Qui voulez-vous que ce soit ?»« Alors, elle n'est pas morte ?» Elle lui dit « Qui vous a dit qu'elle était morte ?» Il ne comprend pas. Il l'a vue morte. Elle va hériter. Elle lui dit « Bien sûr, c'est sa femme !»
Vous en êtes sûr ?
Elle dit, vous êtes fou ?
Lui demande, et si ce n'était pas elle ?
Elle lui dit, eh bien, c'est une autre, mais moi, je la connais, pas vous. Alors, si je dis que c'est elle ?
Lui dit, oui, bien sûr. Et s'éloigne, il ne sait plus. Elle est bien morte, à moins qu'elle ait menti et qu'elle n'était pas ce qu'elle disait. Alors pourquoi ?
S'en retourne chez lui, troublé.
Comment savoir la vérité ? Comment savoir la vérité ? Vincent ne sait quoi penser. Est-elle morte ?
Il reçoit un courrier lui demandant de venir chercher son salaire un petit cadeau.
Il y va, intrigué.
Arrivé à la maison, le domestique le mène au bureau du secrétaire de madame. C'est à l'étage. Frappe à une porte et le fait entrer. L'homme est assis à son bureau, un bureau en pierre. Il est mince, blond, jeune dans les 30 ans, porte un costume marine. Se soulève et dit à Vincent, « Approchez-vous, je vous en prie. » Vincent s'approche, l'homme dit, « Je suis secrétaire particulier de monsieur et madame Perrier. Je suis chargé, c'est de vous remettre votre salaire avec une petite prime. Tenez. » Il tend l'enveloppe. Vincent lui dit, « Merci, monsieur. » Secrétaire lui dit, « Non, c'est nous qui vous remercions. Vous avez rendu un grand service en s'occupant de M. Perrier. » Vincent lui dit, « C'était un homme agréable et très bon. » Secrétaire sourit, se lève et raccompagne Vincent. « Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. » Et Vincent se trouve tout déconfit dans le couloir. Là, il voit arriver à lui, en contre-jour, la silhouette d'une femme habillée en noir. Lorsqu'elle passe devant lui, Delphine, elle lui dit, « Non, je ne suis pas Delphine, je suis madame Perrier. Mais c'est vous, je vous reconnais. » Elle lui dit, « Vous faites sûrement erreur, monsieur. Non. » « Je suis sûr que c'est vous. » Elle lui dit d'une voix blanche. « Monsieur, Delphine est ma sœur jumelle. Je suis navré, dit-il. » Elle lui dit. « Elle a disparu. Vous la connaissiez bien. Je vous préviens. Viens à la police. Je vais prévenir la police pour qu'il vous interroge. » Pour savoir ce qu'elle est devenue. Il panique et dit. Non, je ne l'ai vue que nous deux fois dans le car. Bien, monsieur, au revoir. Le bureau du secrétaire s'est ouvert. Le secrétaire apparaît et demande. Que se passe-t-il ? Elle dit. Monsieur a cru me reconnaître. C'est vrai, monsieur ? Vincent dit. Non, ce n'est rien. Au revoir et merci. Et se sauve en courant. Il attend ils entrent dans le bureau. À peine la porte fermée, il se pend au cou du secrétaire, l'embrasse et lui dit, nous sommes riches et libres. Il lui demande, et lui, il ne dira rien, c'est un pauvre type. J'ai demandé à ma soeur de le draguer pour qu'il puisse le tuer. Mais ça s'est fait tout seul. Le vieux est mort comme ça, tout seul. Et il demande, et toi, ta sœur, oh, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Dommage. Elle me servait de doublure.
Vincent est tout retourné. Une fois qu'il est dehors, il décide, c'est de rentrer de suite chez lui. Le voilà encore sans emploi. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La lumière, l'intégrale. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.